Europe 1. On de la raconte la suite de votre récit.
Les tapis étaient comme brûlés, vous voyez, rongés. Et puis dans le jardin, j'ai trouvé un soulier de femme caché, tout rongé, comme si on avait jeté du vitriol dessus. Et puis il y avait une odeur piquante, je dirais. Et dans le jardin, les plantes étaient comme noircies, brûlées. Et c'est là que j'ai trouvé des boulettes. Des boulettes, je vous explique. Autrefois, le monsieur était expert agricole, spécialisé dans le bétail. Et il raconte que parfois, quand on abattait une bête, eh bien on traitait la carcasse à l'acide pour la dissoudre. Acide qui se présentait sous la forme de boulettes. Eh bien, après le passage des Sarschmitt, j'ai trouvé dans mon jardin les mêmes boulettes noirâtres que celles que j'utilisais à l'époque pour dissoudre les carcasses de vaches. Les mêmes. Alors je me suis dit que Sarré et les Sarschmitt avaient assassiné quelqu'un chez moi et dissous son corps dans l'acide.
Et vous avez parlé de ça aux gendarmes, c'est ça?
Oh que oui, mais comme Maître Sarré c'est quelqu'un d'important, eh bien on m'a pas cru, on m'a pas écouté. Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'arrestation des deux Sarschmitt dans le journal, j'ai bondi dans le train pour venir vous voir.
Dès que M. Poncel a tourné le dos, le commissaire décide de s'intéresser à Alexandre Sarré. Prudemment, discrètement. Il découvre qu'il a été marié deux fois et qu'il a divorcé deux fois. Il a deux filles. L'aînée lui sert de secrétaire. Et ce n'est pas un avocat qu'on voit en robe au palais de justice. Il ne plaide pas, Maître Sarré. C'est un avocat d'affaires. Et ça n'est pas la première fois que la police lui tourne autour. On lui prête des escroqueries et des captations d'héritage. Mais jusque-là, on n'a jamais rien pu prouver. Il n'a jamais été condamné. Bon alors, je vous confirme, commissaire, que le monsieur qui est venu vous voir n'a pas menti. Il fréquente bien les Sarschmitt. Depuis 1920. Elles sont arrivées à Marseille pour deux Allemandes de Bavière, simples couturières. Et le jour où elles l'ont rencontrée, disons que leur sort s'est considérablement amélioré. Hein. Elles ont acheté une maison, elles se sont mises à voyager, elles ont acheté de belles robes. Bref, ils sont vraiment proches au commissaire, tous les trois. Sarré et elle. Le commissaire décide de sortir les deux sœurs de prison pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Il commence par interroger Catherine, la ressuscitée d'entre les morts. Mademoiselle, vous avez avec votre sœur loué la villa L'Ermitage à Aix-en-Provence. Vous vous en souvenez de ça?
Oui.
Un certain Alexandre Sarré vous y rejoignait. Ça aussi, vous vous en souvenez?
Maître Sarré? C'est un ami. C'est lui, il m'a présenté mon mari. Malheureusement, le pauvre est mort. Maître Sarré nous a beaucoup aidé, ma sœur et moi.
Il s'est passé quelque chose, hein, durant votre séjour à la villa?
Quelque chose? Non, rien d'extraordinaire.
Il ne va pas plus loin. Et il passe à Philomène, l'aînée.
Et c'est troublant. Elle raconte la même histoire. Elle connaît Sarré.
Lui aussi lui a présenté son mari. Lequel mari, lui aussi, est mort.
Elles n'ont pas de chance, les deux sœurs.
Veuves, toutes les deux. Quelle tristesse. Dans la foulée, le commissaire décide de convoquer l'avocat. C'est courageux de sa part, hein. Un presque député. Maître Sarré s'assoit dans son bureau, cheveux en brosse, visage carré, cou puissant. Un homme d'action. Alors, monsieur Sarré, est-ce que vous connaissez les sœurs Schmitt?
Oui, monsieur le commissaire.
Oui. J'ai aidé ces pauvres femmes. Elles ont eu bien du malheur. Et comment est-ce que vous les avez aidées?
J'ai arrangé leur mariage. Avec deux de mes clients.
Des mariages blancs, donc?
Oui, oui. Mais il y a prescription.
Reconnaissez-vous avoir séjourné avec les sœurs Schmitt dans la villa L'Ermitage à Aix-en-Provence?
Et là,
Alexandre Sarré marque un temps d'arrêt. Assez long.
Oui, je crois que je vois où vous voulez en venir. J'ai commis un crime, là-bas.
Et petit-on, il a flanché d'un coup.
En août 1925, j'ai tué un homme, un dénommé Chambon, un maître chanteur. Il me faisait chanter, il m'a menacé. Voilà. C'était un prêtre défroqué, c'était un individu néfaste. On s'est battu, le coup de fusil est parti. C'est un accident.
Il raconte ça comme si il avait arraché de mauvaises ronces dans son jardin. Il a tué un homme, mais ne vous inquiétez pas, il était néfaste.
À ce moment-là, le commissaire décide de faire revenir dans son bureau Catherine Schmitt. Quand elle débarque, elle a 28 ans, elle a l'air d'en avoir 40. La prison ne lui a pas réussi.
Alexandre Sarré, madame, vient d'avouer qu'il a tué un homme dans la villa d'Aix-en-Provence. Chez vous, autrement dit. Vous confirmez ?
Non. Il n'a pas tué un homme. Il a tué deux personnes. Un homme et une femme. C'était un guet-apens. C'est lui qui l'a monté.
Deux personnes ? Nouveau rebondissement. Mais quelle bouillabaisse, cette affaire ! Quelle bouillabaisse !
Et Catherine raconte comment Sarré a choisi la villa avec elle et sa sœur.
On a d'abord trouvé une maison à Marseille. Mais il y avait des voisins, il y avait un chien qui aboyait. Alexandre a dit que ça n'allait pas. Et l'ermitage, c'était parfait. Il a juste demandé qu'on mette une baignoire. Il n'y en avait pas.
Et elle raconte qu'un jour, Louis Chambon, l'individu néfaste qui a fini dans l'acide, débarque à la villa. Et qui est ce Chambon, mademoiselle Schmitt?
Je sais pas. Il est avec Sarré dans tout un tas d'affaires louches.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé alors?
Eh bien, je l'ai fait monter à l'étage. On est entré dans la pièce. Alexandre, il était caché derrière un paravent. Il est sorti et il l'a tué au fusil de chasse. Et voilà.
Et la deuxième victime alors? Qui est-ce?
Noémie Ballandreau. C'était la maîtresse de Louis Chambon. Le lendemain, Alexandre l'a invitée à la villa. Je suis allé la chercher en taxi à Marseille. Quand elle est arrivée dans le salon, on lui a offert une limonade. Moi, comme Alexandre me l'avait dit, je suis sorti faire tourner le moteur d'une moto pour couvrir le bruit du coup de feu. Et il l'a tué avec un revolver. Et il m'a dit, j'ai pas pu faire autrement.
La suite est terrifiante. Alexandre s'arrive à Aix-en-Provence et il revient avec 4 bonbonnes d'acide sulfurique, 100 litres. Il les met tous les deux dans la baignoire toute neuve et il verse l'acide. Et après, comme un cuistot avec une longue perche, il touille. Et bientôt, il n'y a plus qu'une bouillie puante.
Il a remis de l'acide pendant plusieurs jours. Et après, moi, lui et ma sœur, avec des seaux, on a vidé la bouillie dans les toilettes et le liquide dans le jardin.
Et vous n'avez pas pensé à dénoncer Alexandre Sarré?
Il nous a menacés, ma sœur et moi. Il disait « La villa a été louée à votre nom. Je suis un homme puissant. On ne vous croira pas. »
La villa est fouillée de fond en comble. Et sur le mur, dans la pièce où Louis Chambon est censé avoir été abattu à coups de fusil, on trouve des traces de sang et aussi des tapis brûlés qui partent au laboratoire. Et les policiers retrouvent la trace de l'achat par Sarré de 100 litres d'acide. Mais il reste une question. Pourquoi a-t-il tué Chambon et accessoirement sa maîtresse? Eh bien, la réponse, la voilà. Chambon était un usurier. Il prêtait de l'argent, en général avec des intérêts faramineux. Et on avait intérêt à le lui rendre. Sarré l'a tué pour prendre sa place,
Après sa mort, il l'a fait vivre. Il a dit aux gens, il est parti en Suisse, je m'occupe de ses affaires. Et donc, il s'est mis à collecter l'argent que les gens devaient à Chambon. En 6 mois, il s'est fait 200 000 francs. Le voilà, le mobile. L'argent. Cet homme est dévoré par l'envie d'argent. Et d'ailleurs, la fausse mort de sa maîtresse Catherine. L'argent. Il a fini dans ses poches. Ça aussi, c'est lui qui l'a organisé. Il reste une affaire à éclaircir. Les deux sœurs Schmitt ont perdu leur pauvre mari, toutes les deux. Les a-t-il tués, eux aussi? On sait, c'est lui qui l'a reconnu, qu'il s'agissait de mariage blanc. Mariage qu'il a monté lui-même pour, soi-disant, aider les deux sœurs allemandes à s'installer en France. Sur le papier, c'est généreux. Mais en vérité, c'est une escroquerie de plus. Il a choisi des maris vieux et en mauvaise santé. Ensuite, il leur a fait contracter une belle assurance sur la vie. Et quand la compagnie d'assurance a demandé une visite médicale, il a envoyé un complice en pleine forme. Et puis les maris sont morts et Sarré a récupéré l'argent des assurances. Mais alors, de quoi sont-ils morts, ces vieux maris? De vieillesse? Ou est-ce qu'on les a aidés? Est-ce que c'est juste une escroquerie? Ou bien un double meurtre? Je sais pas vraiment comment on va le savoir, ça, commissaire, hein. Parce qu'on va pas pouvoir déterrer les cadavres. Figurez-vous que les deux sœurs, on les a mis toutes les deux à la fosse commune. C'est beau, l'amour. Hein? C'est beau. Autant vous dire que l'arrestation d'Alexandre Sarré fait un sacré raffut à Marseille. Et ça délie les langues. Un médecin, par exemple, se présente à l'évêché. Il m'a proposé de l'argent pour établir un faux certificat de bonne santé pour un mort. Est-ce que ça ne serait pas pour cette Magali Herbin, cette jeune tuberculeuse morte et enterrée à la place de Catherine Schmitt? Est-ce qu'elle est vraiment morte de tuberculose? On exhume son corps et dans son organisme, les médecins retrouvent du sel de zinc, un poison mortel. La figurante de la mort de Catherine Schmitt a donc été empoisonnée à petit feu. Donc, si on exclut les deux vieux maris dont on ne pourra jamais prouver qu'ils ont été assassinés, Maître Sarré et les deux sœurs auraient donc tué 3 personnes. M'a-t-il avoué ça? Le voilà dans le bureau du juge d'instruction, calme, sûr de lui, tranquille. « Avez-vous tué Louis Chambon et Noémie Balandro, monsieur Sarré ?»« J'ai tué Louis Chambon, mais je vous l'ai dit, c'était un accident. Mais je n'ai pas tué Noémie Balandro. » »« Catherine et Philomène Schmitt vous accusent de ce crime, pourtant. » »« Bien sûr, mais c'est sans doute elles qui l'ont commis. » »« Et concernant Chambon, qu'est-ce que vous avez fait du corps? Vous l'avez dissous dans l'acide ?» Non. Mon Dieu, non. Après l'avoir tué, moi, je suis parti. Je n'ai jamais plus remis les pieds à la villa. Donc, selon vous, ce sont elles qui ont dissous le cadavre de Louis Chambon dans l'acide? Je ne sais pas, mais elles en sont parfaitement capables. Concernant Chambon, il a dit que c'était un accident. Rien n'est moins sûr. Les deux sœurs viennent de faire passer au commissaire une lettre que Chambon a écrite à Sarré avant sa mort. Je vous la lis. Je t'ai aidé dans tes sales combines. Et tu as gardé l'argent de l'assurance après la mort de la Schmitt. Tu es trop gourmand, hein, Alexandre. Il faut que tu partages. Et donc Sarré l'a éliminé pour ne pas partager. Et on peut imaginer qu'il a tué Noémie Balandro dans la foulée pour qu'elle n'ameute pas la police sur la disparition de son compagnon. En attendant, le juge qui est au bout de son instruction peut s'asseoir sur des aveux circonstanciés. Qu'importe, il veut les renvoyer devant les assises. Alexandre Sarret, qui connaît toutes les ficelles de la procédure, tente mille manœuvres pour échapper à un procès. Mais il n'y parvient pas. Son procès et celui des sœurs Schmitt s'ouvrent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence le 23 octobre 1933. Dans le box, il apparaît frais comme un gardon. Et d'entrée, il accuse les deux sœurs de tous les crimes. Enfin, pourquoi voulez-vous croire toujours les sœurs Schmitt et moi jamais? Que faut-il donc faire pour être cru? Faut-il être allemand et pleurnicher? N'empêche qu'à la fin, l'avocat général réclame sa tête. Il est le grand organisateur des crimes. Il n'a tué que par cupidité. Rendez-vous compte, il est allé jusqu'à refuser une sépulture à deux de ses victimes. C'est un assassin conscient de ses actes, éclairé sur leur portée par le serment qu'il prêta jadis en tant qu'avocat. Il ne mérite aucune pitié. C'est le châtiment suprême que je requiers contre lui. Marché conclu. Le jury condamne Alexandre Sarret à mort. Et les deux sœurs à 10 ans de prison et au bannissement de France. La tête d'Alexandre Sarret tombe sous la lame de la guillotine le 10 avril 1934.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.